Heureusement, il lui restait la plus aimée de ses quatre maris, qui, toujours fidèle et consolante, s'empressa de la secourir et de la consoler. Cependant, cette fois, ce n'était pas chose facile, et la reine la laissait faire et dire, sans lui répondre autrement que par ses sanglots et par ses larmes, lorsque tout à coup, en regardant par la fenêtre dont elle avait approché le fauteuil de sa maîtresse, « La lumière » s'écria-t-elle, « Madame, la lumière !» En même temps, elle soulevait la reine, et le bras tendu hors de la fenêtre, elle lui montrait le phare, éternel symbole d'espérance, qui s'était rallumé au milieu de cette nuit sombre sur la colline de Kinross. Il n'y avait pas à s'y tromper, pas une étoile ne brillait au ciel. « Mon Dieu, Seigneur, je vous rends grâce !» dit la reine en tombant à genoux et en élevant les bras au ciel avec un geste de reconnaissance. « Douglas est sauvé et mes amis veillent toujours !» Puis, après une fervente prière qui lui rendit un peu de force, la reine rentra dans sa chambre et, brisée par les émotions diverses qui s'étaient succédées, elle s'endormit d'un sommeil inquiet et agité sur lequel l'infatigable Mary Seyton veilla jusqu'au jour. William Douglas l'avait dit, à compter de ce moment, la reine fut véritablement prisonnière et la permission de descendre au jardin ne lui fut plus accordée que sous la surveillance de deux soldats. Aussi, cette gêne lui parut-elle si insupportable qu'elle préféra renoncer à cette distraction qui, environnée de pareilles mesures, devenait un supplice. Elle se renferma donc dans son appartement, trouvant une certaine jouissance amère et orgueilleuse dans l'excès même de son infortune. 8 jours après les événements que nous avons racontés, comme 9 heures du soir venaient de sonner à la cloche du château et que la reine et Mary Seyton étaient assises devant une table où elles faisaient de la tapisserie, une pierre, lancée de la cour, passa à travers les barreaux de la fenêtre, brisa une vitre et tomba dans la chambre. Le premier mouvement de la reine fut de croire à un accident ou à une insulte, mais Mary Seyton, en se retournant, s'aperçut que la pierre était enveloppée d'un papier. Elle la ramassa aussitôt. Ce papier était une lettre de George Douglas, conçue en ces termes. « Vous m'avez ordonné de vivre, madame. Je vous ai obéi, et votre majesté a pu reconnaître, à la lumière de Kinross, que ses serviteurs continuaient de veiller pour elle. » Cependant, pour ne pas inspirer de soupçons, les soldats rassemblés pour cette nuit fatale se sont dispersés dès le point du jour et ne se réuniront que lorsqu'une tentative nouvelle rendra leur présence nécessaire. Mais, hélas, cette tentative, ce serait vous perdre que de la renouveler en ce moment où les geôliers de votre majesté sont sur leur garde. Laissez-leur donc prendre toutes leurs précautions, madame. Laissez-les s'endormir dans leur sécurité. « Tandis que nous, nous continuerons de veiller dans notre dévouement. Patience et courage !»« Cœur brave et loyal !» s'écria Marie, plus constamment dévouée au malheur que les autres ne le sont à la prospérité. « Oui, j'aurai la patience et le courage, et tant que cette lumière brillera, je croirai encore à la liberté. » Cette lettre rendit à la reine tout son ancien courage. Elle avait avec George un moyen de communication par le petit Douglas, car sans doute c'était lui qui avait jeté cette pierre. Elle s'empressa d'écrire à son tour une lettre adressée à George, et dans laquelle elle le chargeait de l'expression de sa reconnaissance pour tous les lords qui avaient signé la protestation, et dans laquelle elle les suppliait, au nom de la fidélité qu'ils lui avaient jurée, de ne pas se refroidir dans leur dévouement, leur promettant que, de son côté, elle en attendrait le résultat avec cette patience et ce courage qu'il lui demandait. La reine ne s'était pas trompée. Le lendemain, comme elle était à sa fenêtre, le petit Douglas vint jouer au pied de la tour et, sans lever la tête, s'arrêta juste au-dessous d'elle pour creuser un trébuchet à prendre les oiseaux. La reine regarda si personne ne pouvait la voir, et s'étant assurée que cette partie de la cour était solitaire, elle laissa tomber la pierre enveloppée dans sa lettre. D'abord, elle craignit d'avoir commis une erreur grave, car le petit Douglas ne se retourna pas même au bruit, et ce ne fut qu'après un instant, pendant lequel le cœur de la prisonnière fut serré d'une horrible anxiété, qu'indifféremment, et comme s'il cherchait toute autre chose, l'enfant mit la main sur la pierre, et sans se hâter, sans relever la tête, sans donner enfin aucun signe d'intelligence à celle qu'il avait jetée, il mit la lettre dans sa poche, achevant avec le plus grand calme l'ouvrage commencé, et indiquant à la reine par ce sang-froid au-dessus de son âge quel fond elle pouvait faire sur lui. Dès ce moment, la reine reprit un nouvel espoir. Cependant, les jours, les semaines, les mois s'écoulèrent sans apporter aucun changement à sa situation. L'hiver arriva. La prisonnière vit la neige s'étendre sur les plaines et sur les montagnes, et le lac lui offrir, si elle eût pu franchir seulement la porte, un chemin solide pour gagner l'autre rive. Mais aucune lettre ne vint pendant tout ce temps lui apporter la consolante nouvelle qu'on s'occupait de sa délivrance. Seulement, chaque soir, la lumière fidèle lui annonçait qu'un ami veillait. Bientôt, la nature se réveilla de son sommeil de mort. Quelques rayons hâtifs de soleil percèrent les nuages de ce sombre ciel d'Écosse. La neige fondit, le lac brisa sa croûte de glace, les premiers bourgeons poussèrent, la verdure reparut. Chaque chose sortit de sa prison à l'approche joyeuse du printemps, et ce fut une grande tristesse pour Marie de voir qu'elle seule était condamnée à un hiver éternel. Enfin, un soir, elle crut remarquer au mouvement de la lumière qu'il se passait quelque chose de nouveau. Elle avait interrogé si souvent cette pauvre étoile vacillante, et si souvent elle lui avait laissé compter plus de 20 fois les battements de son cœur, que, pour s'épargner la douleur du désappointement, depuis longtemps elle ne l'interrogeait plus. Cependant, elle résolut de faire une dernière tentative, et presque sans espoir, elle approcha la lumière de la fenêtre et l'éloigna aussitôt. Toujours fidèle au signal, l'autre disparut à l'instant même et reparut au 11e battement du cœur de la reine. Au même instant, et par une coïncidence étrange, une pierre, passant par la fenêtre, tomba aux pieds de Marie Seyton. Elle était, comme la première, enveloppée dans une lettre de Georges. La reine la prit des mains de sa compagne, l'ouvrit et lut. « Le moment approche. Vos partisans sont réunis. Rappelez tout votre courage. Laissez demain à 11 heures du soir pendre une corde par votre fenêtre et enlevez le paquet que l'on y attachera. » Il restait dans l'appartement de la reine le superflu des cordages qui avait servi à l'échelle enlevée par les gardes le soir de l'évasion manquée. Le lendemain, à l'heure dite, les deux prisonnières enfermèrent la lampe dans la chambre à coucher, afin qu'aucune lumière ne les trahît, et Marie Seyton, s'approchant de la fenêtre, laissa pendre la corde. Au bout d'un instant, elle sentit à ses mouvements qu'on y attachait quelque chose. Marie Seyton tira, et un paquet assez volumineux se présenta au barreau, qui ne put franchir à cause de sa grosseur. Alors la reine vint en aide à sa compagne. Le paquet fut dénoué et les objets qu'il contenait, séparés les uns des autres, passèrent facilement. Les deux prisonnières les emportèrent dans la chambre à coucher et, s'étant barricadées en dedans, elles commencèrent leur inventaire. C'étaient 2 habits d'homme complets à la livrée des Douglas. La reine n'y comprenait rien lorsqu'elle vit une lettre attachée au collet d'un de ses 2 justaucorps. Empressée de connaître le mot de cette énigme, elle l'ouvrit aussitôt et lut ce qui suit. « Ce n'est qu'à force d'audace que votre majesté peut reconquérir sa liberté. Que votre majesté lise donc cette lettre et suive ponctuellement, si elle daigne les adopter, les instructions qu'elle y trouvera. Les clés du château ne quittent point pendant le jour la ceinture du vieil intendant. Lorsque le couvre-feu est sonné et qu'il a fait sa ronde pour s'assurer que toutes les portes sont bien fermées, il les remet à William Douglas qui, s'il veille, les attache au ceinturon de son épée, ou, s'il dort, les met sous son chevet. Depuis 5 mois, le petit Douglas, qu'on est habitué à voir travailler à la forge de l'armurier du château, est occupé à exécuter des clés assez semblables aux autres pour qu'une fois substitué, William puisse s'y tromper. Hier, le petit Douglas a achevé la dernière. À la première occasion favorable que Sa Majesté saura être prête à s'offrir en interrogeant chaque jour avec soin la lumière, le petit Douglas substituera les fausses clés aux vraies, entrera dans la chambre de la reine, qu'il trouvera revêtue, ainsi que Miss Marie Seyton, de leur costume d'homme, et marchera devant elle pour les conduire par le chemin qui offrira le plus de chances à leurs évasions. Une barque sera préparée et les attendra. Jusque-là, chaque soir, autant pour s'habituer à ces nouveaux costumes que pour leur donner l'apparence d'avoir été portés, Sa Majesté et Miss Marie Seyton revêtiront les habits qu'elles devront garder de 9 heures à minuit. D'ailleurs, il est possible que, sans avoir eu le temps de les prévenir, leur jeune conducteur vienne tout à coup les chercher. Il est donc urgent qu'il les trouve prêtes. Les vêtements doivent aller parfaitement à Sa Majesté et à sa compagne, la mesure en ayant été prise sur Miss Mary Fleming et Miss Mary Livingston, qui sont absolument de leur taille. On ne peut trop recommander à Sa Majesté d'appeler à son aide, dans la circonstance suprême où elle se trouve, le sang-froid et le courage dont elle a donné de si fréquentes preuves en d'autres occasions. Les deux prisonnières restèrent étourdies de la hardiesse de ce plan, car il leur sembla que la réussite était impossible. Elles n'en essayèrent pas moins leur travestissement. Ainsi que le disait Georges, il leur allait à chacune comme si on avait pris mesure sur elle-même. Chaque soir, la reine, ainsi que Georges le lui avait recommandé, interrogea la lumière, et cela pendant tout un long mois, où chaque soir, la reine et Mary Seyton, quoique cette lumière n'annonçât rien de nouveau, revêtirent, ainsi qu'il en était convenu, leurs habits d'hommes, mais aussi elles en acquirent toutes deux une telle habitude qui leur était devenue aussi familier que ceux de leur sexe. Enfin, le 2 mai 1568, la reine fut réveillée par le son du cor. Inquiète de ce qu'il annonçait, elle passa une robe de chambre et courut à la fenêtre, où Mary Seyton vint aussitôt la rejoindre. Une troupe assez nombreuse de cavaliers faisait halte de l'autre côté du lac, ayant la bannière des Douglas déployée et trois barques ramées ensemble et à l'envi pour aller chercher les nouveaux arrivants. Cet événement fut un motif d'effroi pour la reine. Au point où elle en était, le moindre changement dans les habitudes prises au château était à craindre, car il pouvait renverser tous les projets arrêtés. Cette appréhension redoubla quand, les barques se rapprochant, la reine reconnut dans la plus grande Lord Douglas, mari de Lady Lochleven, et le père de William et de George. Le vieux chevalier, qui était gardien des marches dans le nord, venait faire une visite à son vieux manoir, dans lequel il n'était point rentré depuis 3 ans. C'était un événement pour le château de Lochleven. Aussi, quelques instants après l'arrivée des barques, Mary Stuart entendit-elle les pas du vieil intendant qui montait l'escalier. Il venait annoncer à la reine l'arrivée de son maître, et comme ce devait être fête pour tous ceux qui habitaient le château de Lochleven lorsque le maître y rentrait, il venait inviter la reine au dîner qui allait célébrer ce retour. Soit instinct, soit répugnance, la reine refusa. Toute la journée, la cloche et le cor retentirent. Lord Douglas, en véritable seigneur féodal, voyageait avec une suite de princes. On ne voyait que soldats et serviteurs nouveaux passant et repassant sous les fenêtres de la reine. Valets et écuyers portaient, au reste, une livrée pareille à celle qu'avaient reçue la reine et Mary Seyton. Mary attendait la nuit avec impatience. La veille encore, elle avait interrogé sa lumière et elle lui avait annoncé, comme toujours, en reparaissant au 11e ou 12e battement de son cœur, que le moment de l'évasion était proche, mais elle craignait fort que l'arrivée de Lord Douglas n'eût tout dérangé et que le signal de ce soir ne lui annonçât un retard. Aussi, à peine eut-elle vu s'allumer la lumière qu'elle approcha sa lampe de la fenêtre. L'autre disparut aussitôt et Mary Stuart, avec une angoisse épouvantable, commença de l'interroger. Cette angoisse augmenta encore quand elle eut dépassé 15 battements. Alors elle cessa de compter, abattue et les yeux fixés machinalement sur l'endroit où avait été la lumière. Mais quel fut son étonnement lorsqu'au bout de quelques minutes, elle ne la vit point reparaître et lorsqu'une demi-heure écoulée, tout fut demeuré sombre. La reine alors renouvela son signal mais n'obtint aucune réponse. L'évasion était pour le soir même. La reine et Mary Seyton s'attendaient si peu à cet événement que, contre leur coutume, elles n'avaient pas revêtu ce soir-là leurs vêtements d'homme. Elles se précipitèrent aussitôt dans la chambre à coucher de la reine, dont elles barricadèrent la porte sur elles et commencèrent à s'habiller. Elles achevaient à peine leur toilette précipitée qu'elles entendirent une clé tourner dans la serrure. Elles soufflèrent aussitôt la lampe. Des pas légers s'approchèrent de la porte. Les deux femmes s'appuyèrent l'une contre l'autre, car elles étaient prêtes de tomber toutes deux. On frappa doucement. La reine demanda qui était là, et la voix du petit Douglas répondit par les deux premiers vers d'une vieille ballade. « Douglas, Douglas, tendre et fidèle !» Mary ouvrit aussitôt. C'était le mot d'ordre convenu avec George Douglas. L'enfant était sans lumière. Il étendit la main et rencontra celle de la reine. À la clarté des étoiles, Marie Stuart le vit s'agenouiller, puis elle sentit sur ses doigts l'impression de ses lèvres. « Votre Majesté est-elle prête à me suivre ? » demanda-t-il à voix basse et en se relevant. « Oui, mon enfant, répondit la reine, mais c'est donc pour ce soir ?»« Avec la permission de votre Majesté, oui, c'est pour ce soir. »« Tout est donc prêt ?»« Tout. Que faut-il faire ?»« Me suivre partout. » « oh mon Dieu !» s'écria Marie Stuart, « ayez pitié de nous !» Puis, ayant fait une courte prière à voix basse, tandis que Marie Seyton prenait la cassette où étaient les bijoux de la reine, « Je suis prête, dit-elle, et toi, mignonne ?»«
Moi aussi, répondit Marie Seyton.
« Venez alors, dit le petit Douglas. » Les deux prisonnières suivirent l'enfant, la reine marchant la première et Marie Seyton ensuite. Leur jeune conducteur referma avec soin la porte derrière lui, afin que, si une ronde venait à passer, elle ne s'aperçût de rien, puis il commença de descendre l'escalier tournant. Arrivés à la moitié des marches, le bruit du festin parvint jusqu'à eux, mélange d'éclats de rire, de voix confuses et de chocs de verre. La reine mit la main sur l'épaule de son jeune guide.
« Où nous conduis-tu ? » lui demanda-t-elle avec effroi.
« Hors du château, répondit l'enfant.
« Mais il nous faudra passer par la grande salle ?»«
Sans doute, et voilà justement ce qu'avait prévu Georges. Au milieu des vallées dont votre Majesté porte la livrée, personne ne la reconnaîtra. »«
Oh mon Dieu, mon Dieu !»
murmura la reine en s'appuyant au mur.
« Du courage, madame, dit tout bas Marie Seyton, où nous sommes perdus. »«
Tu as raison, répondit la reine, allons. » Et elles se remirent en marche, toujours guidées par leur conducteur. Au bas de l'escalier, il s'arrêta et présentant à la reine une cruche de grès pleine de vin,
« Placez cette cruche sur votre épaule droite, madame, lui dit-il. Elle cachera votre visage convive et portant quelque chose, votre majesté inspirera moins de soupçons. Vous, Miss Marie, donnez-moi cette cassette et mettez sur votre tête cette corbeille pleine de pain. Maintenant, c'est bien. Vous sentez-vous la force ?»«
Oui, dit la reine.
Oui, dit Marie Seyton.
Alors, suivez-moi. » L'enfant reprit sa route et au bout de quelques pas, les fugitifs se trouvèrent dans une espèce d'antichambre qui précédait la grande salle et dans laquelle pénétraient le bruit et la lumière. Plusieurs serviteurs s'y occupaient de différents services. Pas un ne fit attention à eux et cela rassura quelque peu la reine. D'ailleurs, il n'y avait plus à reculer, le petit Douglas venait d'entrer dans la grande salle. Les convives, assis des deux côtés d'une longue table étagée selon les rangs de ceux qui l'occupaient, entamaient le dessert et, par conséquent, étaient arrivés au moment le plus joyeux du repas. Au reste, la salle était si grande que les lampes et les bougies qui l'éclairaient, si multipliées qu'elles fussent, laissaient dans une demi-teinte des plus favorables les deux côtés de l'appartement dans lequel 15 ou 20 serviteurs allaient et venaient. La reine et Marie Seyton s'engagèrent parmi cette foule trop occupée pour les remarquer, et sans s'arrêter, sans faiblir, sans regarder en arrière, elles traversèrent la salle dans toute sa longueur, arrivèrent à l'autre porte et se trouvèrent dans le vestibule correspondant à celui qu'ils avaient traversé avant d'entrer. La reine y déposa sa cruche, Marie Seyton sa corbeille, et toutes deux, toujours guidées par l'enfant, entrèrent dans un corridor au bout duquel elles se trouvèrent dans une cour. Une patrouille passait en ce moment, mais ne fit pas attention à eux. L'enfant s'achemina vers le jardin, toujours suivi des deux femmes. Là, il fallut chercher pendant quelque temps laquelle de toutes ses clés ouvrait la porte. Ce fut un moment d'inexprimable angoisse. Enfin, la clé tourna dans la serrure, la porte s'ouvrit. La reine et Marie Seyton se précipitèrent dans le jardin. L'enfant referma la porte derrière elle. Arrivé aux deux tiers à peu près, le petit Douglas étendit le bras en leur faisant signe de s'arrêter, puis, posant la cassette et les clés à terre, il rapprocha les mains l'une de l'autre et, soufflant dedans, imita trois fois le cri de la chouette au point qu'il était impossible que l'on crût que c'était une voix humaine qui poussait ces sons. Alors, ramassant la cassette et les clés, il continua son chemin sur la pointe du pied et l'oreille tendue. En arrivant près du mur, ils s'arrêtèrent de nouveau et, après un instant d'attente et d'anxiété, on entendit un gémissement, puis quelque chose de pareil au bruit d'un corps qui tomberait.
Quelques secondes après, le houloulement d'un hibou répondit au cri de la chouette.
« C'est fini !» dit tranquillement le petit Douglas. « Allons !»«
Qu'est-ce qui est fini ?» demanda la reine. « Et quel est ce gémissement que nous avons entendu ?»«
Il y avait une sentinelle à la porte qui donne sur le lac, » répondit l'enfant. « Mais elle n'y est plus. »
La reine sentit son sang se glacer jusqu'au fond du cœur, en même temps qu'une sueur froide pointait à la racine de ses cheveux, car elle avait tout compris. Un malheureux venait de perdre la vie à cause d'elle. Elle s'appuya chancelante sur Mary Seyton, qui, elle-même, sentait sa force prête à l'abandonner. Pendant ce temps, le petit Douglas essayait les clés. La deuxième ouvrit la porte.
« La reine ?» dit à voix basse un homme qui attendait de l'autre côté du mur.
« Elle me suit !» répondit l'enfant. George Douglas, car c'était lui, s'élança dans le jardin et prenant d'un côté le bras de la reine et de l'autre celui de Mary Seyton, il les entraîna vivement sur les bords du lac. En franchissant la porte, Mary Stuart ne put s'empêcher de jeter un regard inquiet autour d'elle et il lui sembla qu'un objet informe gisait au pied de la muraille. Et comme elle frissonnait par tout le corps,
« Ne le plaignez pas !» dit à voix basse George, « car c'est une justice du ciel. » Cet homme était l'infâme Warden qui nous a trahis.
Hélas, dit la reine, si coupable qu'il ait été, il n'en est pas moins mort à cause de moi.
Quand il s'agissait de votre salut, madame, fallait-il marchander avec quelques gouttes de cet ignoble sang?
Mais silence! Par ici, Williams, par ici, suivons la muraille dont l'ombre nous cache. La barque est à 20 pas et nous sommes sauvés.
À ces mots, George entraîna les deux femmes plus rapidement encore, et tous quatre arrivèrent sans avoir été découverts jusqu'aux rives du lac. Comme l'avait dit Douglas, une petite barque attendait, et en voyant s'approcher les fugitifs, quatre rameurs couchés au fond se levèrent, et l'un d'eux, sautant à terre, tira la chaîne afin que la reine et Mary Seyton pussent y descendre. Douglas les fit asseoir à la proue, l'enfant se plaça au gouvernail, et George, d'un coup de pied, repoussa la barque qui commença de glisser sur le lac.
Et maintenant, dit-il, nous sommes véritablement sauvés, car autant vaudrait qu'ils poursuivissent une hirondelle de mer sur le détroit de Solway que d'essayer de nous atteindre. Ramez, enfants, ramez, peu importe qu'ils nous entendent, l'essentiel est de gagner le large.
Qui vive ? Cria une voix du haut de la terrasse du château.
Ramez, ramez ! Dit Douglas en se plaçant devant la reine.
La barque ! La barque ! Cria la même voix. Amenez la barque !
Puis, voyant qu'elle continuait à s'éloigner,
Trahison ! Trahison ! Cria la sentinelle. Aux armes !
Au même moment, une lueur éclaira le lac. Le bruit d'une arme à feu se fit entendre et une balle passa en sifflant. La reine jeta un léger cri, quoiqu'elle n'ait couru aucun danger. George, comme nous l'avons dit, s'étant placé devant elle et la couvrant tout entière de son corps. En ce moment, la cloche d'alarme tinta et l'on vit toutes les lumières du château se mouvoir et courir comme éperdues dans les appartements.
« Courage, enfant !» dit Douglas, « ramez comme si votre vie dépendait de chaque coup d'aviron, car avant 5 minutes, l'esquive sera à notre poursuite. »
« Ce qui ne leur sera pas si facile que tu crois, George !» dit le petit Douglas, « car j'ai refermé toutes les portes derrière moi, et avant que les clés que je leur ai laissées ne les ouvrent, il se passera du temps. Quant à celle-ci, ajouta-t-il en montrant celle qu'il avait si adroitement soustraite, je les remets à Kelpy, le génie du lac, et je le nomme portier du château de Lochleven. »
La décharge d'une petite pièce d'artillerie répondit à la plaisanterie de Williams. Mais comme la nuit était trop obscure pour que l'on pût pointer à une aussi grande distance que celle qui se trouvait déjà entre le château et la barque, le boulet ricocha à une 20 pas des fugitifs, tandis que le bruit allait s'éteignant d'écho en écho. Alors Douglas tira un pistolet de sa ceinture et, prévenant les femmes de ne point avoir peur, il lâcha le coup en l'air, non point pour répondre par une vaine bravade à la canonnade du château, mais pour prévenir une troupe d'amis fidèles qui les attendaient sur l'autre rive du lac, que la reine était sauvée. Aussitôt, quelque danger qu'il y eût tant qu'on serait si près de Kinross, des cris de joie retentirent sur le rivage, et Williams, ayant incliné le gouvernail, l'esquif alla prendre terre à l'endroit où on les avait entendus.
Douglas alors tendit la main à la reine, qui sauta légèrement sur la rive et qui, tombant à genoux, aussitôt commença par rendre grâce à Dieu de son heureuse délivrance. En se relevant, la reine se trouva entourée de ses plus fidèles serviteurs, Hamilton, Harris et Seyton, le père de Marie. Folle de joie, la reine leur tendait les mains, les remerciant avec des paroles entrecoupées qui exprimaient son ivresse et sa reconnaissance, mieux que n'eussent pu faire les plus belles phrases, lorsque tout à coup, en se retournant, elle aperçut George Douglas triste et à l'écart. Alors, allant à lui et le prenant par la main, « Mylord, dit-elle en leur présentant George et en leur montrant Williams, voici mes deux libérateurs, voici ceux auxquels, tant que je vivrai, je garderai une reconnaissance que rien n'acquittera jamais. » « Madame, dit Douglas, chacun de nous n'a fait que ce qu'il devait faire, celui qui a le plus risqué et le plus heureux. Mais si votre majesté veut m'en croire, elle ne perdra pas une minute en paroles inutiles. » « Douglas a raison, dit Lord Seyton. À cheval, à cheval !» Aussitôt, et tandis que quatre courriers partaient dans quatre directions différentes pour annoncer aux amis de la reine son heureuse évasion, on lui présenta un cheval préparé pour elle et sur lequel elle s'élança avec son habileté ordinaire. Puis la petite troupe, qui, composée de 20 personnes à peu près, escortait les destinées futures de l'Écosse, tournant le bourg de Kinross, dans lequel le feu du château avait sans doute jeté l'alarme, prit au grand trot le chemin du château de Seyton, où se trouvait déjà une garnison suffisante pour défendre la reine d'un coup de main. La reine marcha toute la nuit, accompagnée d'un côté par Douglas et de l'autre par Lord Seyton. Puis, au point du jour, on s'arrêta à la porte du château de West Nidri, appartenant, comme nous l'avons dit, à Lord Seyton et situé dans le Lothian occidental. Douglas s'élança au bas de son cheval pour offrir la main à Mary Stuart, mais Lord Seyton réclama ses privilèges de maître de maison. La reine consola Douglas d'un coup d'œil et entra dans la forteresse. « Madame, lui dit Lord Seyton en la conduisant dans la chambre depuis 9 mois préparée pour elle, votre majesté doit avoir besoin de repos après la fatigue et les émotions qu'elle a éprouvées depuis hier matin. Qu'elle dorme donc tranquille et ne s'inquiète de rien. Le bruit qu'elle pourrait entendre serait causé par un renfort d'amis que nous attendons. Quant à nos ennemis, votre majesté n'a rien à en craindre tant qu'elle habitera le château d'un Seyton. » La reine remercia de nouveau ses libérateurs, donna une dernière fois à baiser sa main à Douglas, embrassa le petit Williams au front et le nomma pour l'avenir son page favori. Puis, profitant du conseil qui lui était donné, entra dans sa chambre où Mary Seyton, à l'exclusion de toute autre femme, réclama le privilège de remplir auprès d'elle les fonctions dont elle avait été chargée pendant leurs 11 mois de captivité au château de Lochleven. En rouvrant les yeux, Mary Stuart crut avoir fait un de ces rêves si douloureux aux prisonniers quand, en se réveillant, ils retrouvent les verrous de leurs portes et les barreaux de leurs croisées. Aussi, la reine, ne pouvant en croire le témoignage de ses sens, courut-elle à demi-nu à la fenêtre. La cour était pleine de soldats, et ces soldats étaient tous des amis, accourus à la nouvelle de son évasion. Elle reconnut les bannières de ses fidèles amis, les Seyton, les Arbroath, les Harris et les Hamilton. Et à peine eut-elle été aperçue à sa fenêtre que toutes ses bannières s'inclinèrent devant elle avec des cris 100 fois répétés de « Vive Marie d'Écosse, vive notre reine !» Alors, sans faire attention au désordre de sa toilette, belle et chaste de son émotion et de son bonheur, elle salua à son tour les yeux pleins de larmes. Mais cette fois, c'était des larmes de joie. Cependant, la reine s'aperçut qu'elle était à demi nue. Et rougissant de s'être laissée emporter ainsi à son délire, elle se rejeta en arrière, toute rougissante de confusion. Alors elle eut un instant de crainte grave pour une femme. Elle avait fui du château de Lochleven en habit à la livrée de Douglas, et sans avoir ni le loisir, ni même la possibilité d'emporter aucun vêtement de femme. Cependant, elle ne pouvait demeurer vêtue en homme. Elle exprima donc son inquiétude à Mary Seyton, qui y répondit en ouvrant les armoires de la chambre où la reine se trouvait. Elles étaient garnies non seulement de robes dont la mesure, comme celle de l'habit, avait été prise sur Mary Fleming, mais encore de tous les objets nécessaires à la toilette d'une femme. La reine était émerveillée. Il lui semblait être dans un château de fées. « Mignonne !» dit-elle en regardant les unes après les autres, ses robes dont les étoffes étaient choisies avec un goût exquis. « Je savais ton père un brave et loyal chevalier, mais je ne le croyais pas si savant en matière de toilette. Nous le nommerons secrétaire de nos atours. »«
Hélas, madame, » répondit en souriant Marie Seyton, « vous ne vous êtes pas trompée. Mon père a fait fourbir jusqu'à la dernière cuirasse, repasser jusqu'à la dernière épée, déployé jusqu'à la dernière bannière qui se trouvait au château. Mais mon père, tout prêt qu'il est à mourir pour votre majesté, n'aurait pas songé un instant à lui offrir autre chose que son toit pour s'y reposer ou son manteau pour la couvrir. C'est encore Douglas qui a tout prévu, tout préparé, tout, jusqu'à Rosabelle, la hackney favorite de votre majesté, qui attend avec impatience dans l'écurie le moment où, montée sur elle, votre majesté fera sa rentrée triomphale à Édimbourg.
« Et comment a-t-il pu la ravoir ?» demanda Marie. « J'avais cru que, dans le partage de mes dépouilles, Rosabelle était échue à la belle Alice, la sultane favorite de mon frère. »«
Oui, oui, » dit Marie Seyton. « Il en était ainsi, et comme on savait le prix de Rosabelle, elle était gardée sous clés et verrous par une armée de palefreniers. Mais Douglas est l'homme des miracles, et, comme je vous l'ai dit, Rosabelle attend votre majesté. »«
Noble Douglas !» murmura la reine, les larmes aux yeux. Puis, comme se parlant à elle-même, « Et voilà pourtant de ces dévouements que nous ne pouvons récompenser. Les autres seront heureux avec des honneurs, des places, de l'argent, mais Douglas, que lui importe à lui toutes ces choses ?»«
Allons, madame, allons !» dit Marie Seyton. « Dieu se charge des dettes des rois. Il récompensera Douglas. Quant à votre majesté, qu'elle songe qu'on l'attend pour dîner. » « J'espère qu'elle ne fera pas à mon père, » ajouta-t-elle en souriant, « l'affront qu'elle a fait hier à Lord Douglas en refusant de partager son festin de bon retour. »«
Eh bien, m'en a pris, j'espère, » répondit Marie. « Mais tu as raison, mignonne, plus d'idées tristes. Nous réfléchirons quand nous serons véritablement redevenues reines à ce que nous pourrons faire pour Douglas. » La reine s'habilla et descendit. Comme l'avait dit Marie Seyton, les principaux seigneurs de son parti, déjà réunis autour d'elle, l'attendaient dans la grande salle du château. Son arrivée fut saluée par les acclamations du plus vif enthousiasme, et elle se mit à table, ayant Lord Seyton à sa droite, Douglas à sa gauche, et derrière elle le petit Williams, qui commençait le même jour son office de page. Le lendemain matin, la reine fut réveillée par le bruit des trompettes et des cors. Il était convenu dès la veille que l'on partirait ce jour-là pour Hamilton, où l'on attendrait de nouveaux renforts. La reine revêtit un costume élégant d'Amazone et bientôt, montée sur Rosabelle, parut au milieu de ses défenseurs. Les cris de joie redoublèrent, chacun admira sa beauté, sa grâce et son courage. Marie Stuart redevenait elle-même et elle se sentait reprendre le pouvoir fascinateur qu'elle avait toujours exercé sur ceux qui l'approchaient. Tout le monde était dans le bonheur et le plus heureux de tous était peut-être le petit Williams qui, pour la première fois de sa vie, avait un si beau costume et un si beau cheval. 2 ou 3 000 hommes attendaient la reine à Hamilton où elle arriva le même soir et pendant la nuit qui suivit son arrivée, sa troupe s'éleva jusqu'à 6 000. Le 2 mai, elle était captive, sans autre ami dans sa prison qu'un enfant, sans autre moyen de communication avec ses partisans que la lumière vacillante et incertaine d'une lampe, et 3 jours après, c'est-à-dire du dimanche au mercredi, elle se trouvait, non seulement libre, mais encore à la tête d'une confédération puissante qui comptait pour chef 9 comtes, 8 lords, 9 évêques et quantité de barons et de seigneurs renommés parmi les plus braves de l'Écosse. La vie des plus sages parmi ceux qui entouraient la reine fut de se renfermer dans la forteresse de Dumbarton, qui, étant imprenable, donnerait à tous ses partisans le temps de se rassembler, si éloignés et disséminés qu'ils fussent. En conséquence, la conduite des troupes qui devaient conduire la reine dans cette ville fut confiée au comte d'Argyle, et le 11 mai, elle se mit en route avec une armée de près de 10 000 hommes. Murray était à Glasgow lorsqu'il apprit l'évasion de la reine. La place était forte, il résolut de s'y tenir et appela auprès de lui ses plus braves et ses plus dévoués. Kirkaldy de Lagrange, Morton, Lindsay de Byre, le Lord Lochleven et Williams Douglas accoururent et 6 000 hommes des meilleures troupes du royaume se rassemblèrent autour d'eux, tandis que Lord Ruthwen faisait dans les comtés de Berwick et d'Angus des levées avec lesquelles il devait venir les rejoindre. Le 13 mai, Morton occupa dès le point du jour le village de Langside, par lequel il fallait que passât la reine pour se rendre à Dumbarton. La nouvelle de cette occupation arriva à la reine comme les deux armées étaient encore à 3 lieues l'une de l'autre. Le premier mouvement de Marie fut de chercher à éviter le combat. Elle se souvenait de la dernière bataille de Carberry Hill, à la suite de laquelle elle avait été séparée de Boswell et ramenée à Édimbourg. Aussi émit-elle tout haut cette opinion, qui fut appuyée par George Douglas, qui, revêtu d'une armure noire sans aucune armoirie, avait continué de marcher à côté de la reine. « Éviter la bataille !» s'écria Lord Seyton, n'osant répondre à la souveraine et répondant à Douglas comme si cette opinion était émise par lui. « C'est ce que nous pourrions faire peut-être si nous étions à 1 contre 10, mais c'est ce que nous ne ferons certainement pas quand nous sommes 3 contre 2. Vous tenez là un étrange langage, mon jeune maître, » continua-t-il avec quelque mépris, « et vous oubliez, ce me semble, que vous êtes un Douglas et que vous parlez à un Seyton. » Mylord, répondit George avec calme, quand nous n'exposerons la vie que des Seyton et des Douglas, vous me trouverez, je l'espère, aussi disposé que vous à combattre, soit 1 contre 10, soit 3 contre 2. Mais nous répondons à cette heure d'une existence plus chère à l'Écosse que celle de tous les Seyton et de tous les Douglas. Mon avis est donc qu'on évite la bataille. Le combat ! Le combat ! Crièrent tous les chefs. Vous l'entendez, madame ? Dit Lord Seyton à Marie Stuart. Vouloir agir contre une pareille unanimité serait chose dangereuse, je le crois. En Écosse, madame, il y a un vieux proverbe qui dit que ce qu'il y a de plus prudent, c'est le courage. « Mais n'avez-vous pas entendu, dit la reine, que le régent occupe une position avantageuse ?»« Le lévrier poursuit le lièvre sur la colline comme dans la plaine, » répondit Seyton. « D'où il sera, nous le débusquerons. »« Qu'il soit donc fait comme vous voudrez, my lord. Il ne sera pas dit que Marie aura fait remettre au fourreau l'épée que ses défenseurs avaient tirée pour elle. » Puis, se retournant vers Douglas, « George, lui dit-elle, choisissez-moi une garde de 20 hommes et prenez-en le commandement. Vous ne me quitterez pas. » George, s'inclina en signe d'obéissance, choisit 20 hommes parmi les plus braves, plaça la reine au milieu d'eux et se mit à leur tête. Puis la troupe, qui avait fait halte, reçut l'ordre de continuer son chemin. Au bout de 2 heures, l'avant-garde se trouva en vue de l'ennemi. Elle fit halte et le reste de l'armée la rejoignit. Les soldats de la reine se trouvaient sur une ligne parallèle à la ville de Glasgow, et les hauteurs qui s'élevaient en face d'eux étaient déjà couvertes d'une armée au-dessus de laquelle flottaient, comme dans celle de Marie, les bannières royales d'Écosse. De l'autre côté et sur le versant opposé s'étendait le village de Langside, entouré d'enclos et de jardins. La route qui y conduisait et qui suivait tous les accidents du terrain se rétrécissait à un endroit, de manière à ce que 2 hommes à peine y pouvaient passer de face, puis plus loin s'enfoncer dans un ravin, au-delà duquel elle reparaissait, séparée alors en 2 branches, dont l'une montait au village de Langside et dont l'autre conduisait à Glasgow. En voyant la disposition du terrain, le comte d'Argyle comprit aussitôt de quelle importance était l'occupation de ce village, et se tournant vers Lord Seyton, il lui donna l'ordre de partir au galop et de tâcher d'y arriver avant les ennemis qui, sans doute ayant fait la même remarque que le commandant de l'armée royale, mettaient au moment même en mouvement un corps considérable de cavalerie. Lord Seyton rassembla aussitôt ses hommes, mais tandis qu'il les rangeait autour de sa bannière, Lord Albrote tira son épée et s'approchant du comte d'Argyle. « My lord, lui dit-il, vous me faites tort en chargeant Lord Seyton de s'emparer de ce poste. Comme commandant de l'avant-garde, c'est à moi que cet honneur appartient. Trouvez donc bon que j'use de mon privilège en le réclamant. »« C'est moi qui ai reçu l'ordre de m'en emparer, c'est moi qui m'en emparerai, » s'écria Seyton. « Peut-être, répondit Lord Arbroath, mais pas avant moi. »« Avant vous et avant tous les Hamilton de ce monde. » s'écria Seyton en mettant son cheval au galop et en se précipitant dans le chemin creux. « Saint-Béné et en avant !»« À moi, mes fidèles !» s'écria Lord Arbroath en s'élançant de son côté vers le même but. « À moi, mes hommes d'armes ! Dieu et la reine !» Les deux troupes se précipitèrent aussitôt en désordre et se heurtèrent dans le défilé, où, comme nous l'avons dit, deux hommes pouvaient à peine passer de front. Là, il y eut un choc terrible et le combat commença entre les amis qui devaient se réunir contre les ennemis. Enfin, les deux troupes, laissant derrière elles quelques cadavres étouffés dans la presse ou même tués par leurs compagnons, passèrent pêle-mêle le défilé et disparurent dans le ravin. Mais pendant cette lutte, Seyton et Abrot avaient perdu un temps précieux et le détachement envoyé par Murray et qui avait pris le chemin de Glasgow était arrivé en avant du village qu'il fallait maintenant, non pas prendre, mais reprendre. Argyle vit que c'était là que se concentreraient les efforts de toute la journée et, comprenant de plus en plus l'importance du village, se mit aussitôt à la tête du corps d'armée, ordonnant à une arrière-garde de 2000 hommes de rester là et d'attendre de nouveaux ordres pour se mêler au combat. Mais soit que le chef qui l'a commandé eût mal entendu, soit qu'il fût jaloux de se signaler sous les yeux de la reine, à peine Argyle eut-il disparu dans le ravin, à l'extrémité duquel le combat était déjà engagé entre Kirkaldy de Lagrange et Morton d'une part, et de l'autre entre Arbrot et Seyton, que, sans écouter les cris de Mary Stuart, il partit à son tour au galop, laissant la reine sans autre garde que la petite escorte de 20 hommes que lui avait choisi Douglas. Douglas poussa un soupir. « Hélas !» dit la reine qui l'entendit, « je ne suis pas un soldat, mais voilà, ce me semble, une bataille bien mal engagée. »« Que voulez-vous ?» répondit Douglas. « Nous sommes, depuis le premier jusqu'au dernier, en proie à un esprit de vertige, et tous ces hommes se conduisent aujourd'hui comme des fous ou comme des enfants. » « Victoire ! Victoire ! » dit la reine. « Voici les ennemis qui battent en retraite. J'aperçois les bannières de Seyton et d'Abrot qui flottent près des premières maisons du village. Oh, mes braves lords ! » s'écria-t-elle en battant des mains. « Victoire ! Victoire !» Mais tout à coup, elle s'arrêta en voyant un corps d'armée ennemi qui s'avançait en flanc pour charger les vainqueurs. « Ce n'est rien, ce n'est rien !» dit Douglas. Tant qu'il n'y aura que de la cavalerie, nous n'avons pas grand-chose à craindre. Et d'ailleurs, le comte d'Argyle débouchera à temps pour les soutenir. « Georges !» dit le petit Williams. « Eh bien ?» demanda Douglas. « Vois-tu ? » continua l'enfant, étendant le bras vers le corps ennemi qui s'avançait au galop. « Quoi ? Chaque homme à cheval a en croupe un arquebusier, de sorte que la troupe est du double plus nombreuse qu'elle ne le paraît. » « C'est vrai sur mon âme, et l'enfant a de bons yeux. Que quelqu'un parte à l'instant même au galop et donne avis de cette circonstance au comte d'Argyle. »« Moi !» s'écria le petit Williams. « C'est moi qui les ai vus le premier, c'est moi qui ai le droit de porter cette nouvelle. »« Va, mon enfant, » dit Douglas, « et que Dieu te garde. » L'enfant s'élança, rapide comme la foudre, n'entendant point ou feignant de ne point entendre la reine qui le rappelait. On le vit traverser le défilé et s'enfoncer dans le chemin creux au moment où Argyle débouchait à son extrémité et venait en aide à Seyton et Arbrot. Pendant ce temps, le détachement ennemi avait rejeté à terre son infanterie qui, formée aussitôt en corps, s'éparpillait sur les bords du ravin par des sentiers impraticables aux chevaux. « Williams arrivera trop tard !» s'écria Douglas. « Ou même, arriva-t-il à temps ? Cette nouvelle est maintenant inutile !» « Oh, insensé, insensé que nous sommes ! Voilà toujours comme nous avons perdu toutes nos batailles !»« La bataille est-elle donc perdue ?» demanda Marie en pâlissant. « Non, madame, non !» s'écria Douglas. « Non, grâce au ciel, pas encore. Mais par trop de précipitation, nous l'avons mal engagée. »« Et Williams ? » dit Marie Stuart. « Il fait maintenant son apprentissage d'armes, car si je ne me trompe, il doit être à cette heure à l'endroit même où ces arquebusiers font de si rapides décharges. »« Pauvre enfant !» s'écria la reine. « S'il lui arrivait malheur, je ne m'en consolerai jamais. »« Hélas, madame, » répondit Douglas, « j'ai bien peur que sa première bataille ne soit sa dernière et que tout ne soit déjà fini pour lui, car si je ne me trompe, voilà son cheval qui revient sans cavalier. » « Oh, mon Dieu, mon Dieu !» dit la reine en pleurant et en levant les mains au ciel. « Il est donc dit que je serai fatale à tout ce qui m'entoure !» George ne s'était pas trompé. C'était le cheval de Williams qui revenait sans son jeune maître et tout couvert de sang. « Madame, dit Douglas, nous sommes mal ici. Gagnons cette éminence sur laquelle est situé le château de Crockstone. De là, nous découvrirons tout le champ de bataille. »
Non, pas de ce côté, pas de ce côté, dit la reine avec effroi. C'est dans ce château que je suis venue passer les premiers jours de mon mariage avec Darnley. Il me porterait malheur.
Eh bien, sous cet if, alors, dit Georges, montrant un autre monticule situé près du premier. Mais il est important que nous ne perdions aucun détail de cet engagement. Tout dépend peut-être pour votre majesté d'une manœuvre mal jugée ou d'une minute perdue.
Conduisez-moi donc, dit la reine, car pour moi je n'y vois plus. Chaque coup de cette artillerie terrible me répond jusqu'au fond du cœur.
Cependant, si bien disposée que fût cette hauteur pour découvrir de son sommet tout le champ de bataille, les décharges multipliées de l'artillerie et de la fusillade le couvraient d'un tel nuage de fumée qu'il était impossible d'y rien distinguer autre chose que des masses perdues au milieu de ce brouillard homicide. Enfin, au bout d'une heure de ce combat acharné, on vit, par les extrémités de cette mer de vapeur, déborder les fuyards qui se dispersaient de tous les côtés, suivis par les vainqueurs. Seulement, à cette distance, il était impossible de distinguer qui avait gagné ou perdu la bataille, et les bannières, qui étaient des deux côtés aux armes d'Écosse, ne pouvaient en rien éclaircir cette confusion. En ce moment, on vit descendre des collines de Glasgow tout ce qui restait de la réserve de l'armée de Murray. Elle venait, à grande course de cheval, se mêler à la bataille. Mais cette manœuvre pouvait avoir aussi bien pour but de soutenir des amis défaits que d'achever la défaite des ennemis. Cependant, bientôt, il n'y eut plus de doute, car cette réserve chargea sur les fuyards, au milieu desquels elle répandit une nouvelle confusion. L'armée de la reine était vaincue. Au même moment, trois ou quatre cavaliers parurent en deçà du ravin, s'avançant au grand galop de leurs chevaux. Douglas les reconnut pour des ennemis. « Fuyez, madame !» s'écria Georges. « Fuyez sans perdre une seconde, car ceux qui nous arrivent là sont suivis par d'autres. Gagnez du chemin tandis que je vais les arrêter. » « Et vous, ajouta-t-il en s'adressant à l'escorte, faites-vous tuer jusqu'au dernier plutôt que de laisser prendre votre reine. »«
Georges, Georges !» s'écria la reine, immobile et comme clouée à sa place.
Mais déjà, Georges s'était élancé de toute la vitesse de son cheval, et comme il était merveilleusement monté, il franchissait l'espace avec la rapidité de la foudre et était arrivé au défilé avant les ennemis. Là, il s'arrêta, mit sa lance en arrêt, et, seul contre cinq, attendit bravement le choc. Quant à la reine, elle n'avait pas voulu partir, mais au contraire, comme pétrifiée, elle était restée à la même place et les regards fixés sur ce combat qui avait lieu à 500 pas d'elle à peine. Tout à coup, en jetant les yeux sur ses ennemis, elle vit que l'un d'eux portait au milieu de son bouclier un cœur sanglant qui était les armoiries de Douglas. Alors elle jeta un cri de douleur et, abaissant la tête,
« Douglas contre Douglas, frère contre frère, » murmura-t-elle. « Il me manquait ce dernier coup. »«
Madame, madame !» crièrent les soldats de l'escorte. « Il n'y a pas un instant à perdre. Le jeune maître de Douglas ne peut tenir longtemps ainsi, seul contre cinq. Fuyons, fuyons !» Et deux d'entre eux, prenant le cheval de la reine par la bride, le mirent au galop, au moment où Georges, après avoir abattu deux de ses ennemis et en avoir blessé un troisième, était renversé à son tour sur la poussière, frappé au cœur par le fer d'une lance. La reine poussa un gémissement en le voyant tomber, puis, comme si lui seul l'eût retenu et que lui tué, elle fût sans intérêt pour toute autre chose, elle mit Rosabelle au galop, et comme elle et sa troupe étaient parfaitement montées, on eut bientôt perdu de vue le champ de bataille. Elle courut ainsi 60 000 sans prendre aucun repos et sans cesser de verser des larmes ou de soupirer. Enfin, après avoir traversé les comtés de Renfrew et d'Ayr, elle arriva à l'abbaye de Drunenham, dans le Galloway, et certaine d'être, momentanément du moins, à l'abri de tout danger, elle donna l'ordre de s'y arrêter. Le prieur vint respectueusement la recevoir à la porte du couvent.
« Je vous amène le malheur et la destruction, mon père !» dit la reine en descendant de cheval.
« Ils sont les bienvenus, répondit le prieur, puisqu'ils m'arrivent accompagnés du devoir. » La reine recommanda Rosabelle à un des hommes d'armes qui l'avait accompagnée, et s'appuyant sur Mary Seyton, qui ne l'avait pas quitté d'une minute, et sur Lord Harris, qui l'avait rejoint pendant la route, elle entra dans le couvent. Lord Harris n'avait point caché à Mary Stuart sa position. La bataille avait été entièrement perdue, et avec la bataille, toutes les espérances de remonter, du moins pour le moment, sur le trône d'Écosse. Il ne restait à la reine que trois partis à prendre. Se retirer en France, en Espagne ou en Angleterre. Sur l'avis de Lord Iris, qui s'accordait avec son propre sentiment, elle s'arrêta au dernier, et la nuit même, elle écrivit à Élisabeth ce double billet en vers et en prose. « Ma chère sœur, je vous ai assez souvent prié de recevoir mon navire agité en votre port durant la tourmente. Si à ce coup elle y trouve port de salut, j'y jetterai mes ancres pour jamais. Autrement, la barque est en la garde de Dieu, car elle est prête et calfeutrée pour se défendre en course contre toutes les tourmentes. J'ai pleinement procédé avec vous, encore fais-je. Ne prenez point en mauvaise part si j'écris ainsi, ce n'est point défiance que j'ai de vous, comme il appelle, car je me repose du tout sur votre amitié. » Ce sonnet accompagnait la lettre. Un seul pensée qui me profite et nuit, amère et doux, change en mon cœur sans cesse, entre le doute et l'espoir qui m'oppresse, tant que la paix et le repos me fuient. Donc, chère sœur, si cette carte suit l'affection de vous voir qui m'oppresse, c'est que je vis en peine et en tristesse, si promptement doux effet ne s'ensuit. J'ai vu ma nef relâchée par contrainte, en haute mer, proche d'entrer au port, en temps serein se convertir en trouble. Ainsi je suis en souci et en crainte, non pas de vous, mais si souvent à tort, fortune ronviole et cordage double.